plus savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, hein, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret.
Et surtout, n'oubliez pas que trop n'est jamais assez. Ce n'est pas lui qui le dit, c'est Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Mais la formule pourrait tout aussi bien s'appliquer à sa vie et à sa destinée, celle d'un gamin chétif de New York, devenu un géant du cinéma mondial. Aujourd'hui, dans tous les cinémas du monde, nous rediffusons cette émission consacrée à Martin Scorsese à l'occasion de la rétrospective que lui consacre l'Institut Lumière à Lyon jusqu'au 3 juin. Émission enregistrée à l'occasion de la diffusion sur Arte du documentaire Martin Scorsese, l'Italo-Américain, que vous signez Camille Jutra et Yael Sadat. Bonjour.
Bonjour.
Who the hell else are you talking? Talking to me? Who the fuck do you think you're talking to?
We did some job on you. How fucking nuts you are? Look what she did to you.
You fucked my wife.
What?
You fucked my wife.
How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny.
This is Jerry Langford. Now get Bert Thomas, and I'm not kidding. It's not a gag. It's serious. Now move it.
Look at this. The Wolf of Wall Street, they call me. Look.
Hey, you. Hey, you.
Trop n'est jamais assez. Est-ce que ce paradoxe peut définir un auteur lui-même on ne peut plus paradoxal ? Enfant à la santé fragile, qui a longtemps hésité, dit-on, entre devenir prêtre ou voyou, et dont l'œuvre se partage entre fascination pour la violence et désir de rédemption. Camille Jutra, Yael Sadat, vous proposez un portrait cinématographique de Scorsese, Martin Scorsese, l'Italo-Américain. Donc Scorsese raconté par ses films et de nombreuses interviews, dont certaines sont inédites en France, et ça commence comme toujours à New York.
It was a community, especially Sicilian American. It's very much family tied together, and we didn't really care about anybody else. We didn't care about the politicians, we didn't care about the police, we didn't care about the government, we didn't care about how the people lived, and we were very much totally assured who we are, where we are.
L'une des nombreuses archives qui figurent dans votre documentaire, Camille Jutra et Yael Sadat. Et donc, il raconte dans quel quartier de New York il a grandi. Donc, c'est le quartier de Little Italy, donc quartier italo-américain. Et il le décrit, c'est intéressant, comme une espèce de bulle.
Absolument.
Et cette bulle, en fait, va être le vortex de toute sa filmographie, ou presque, Camille.
Oui, et d'ailleurs, en écoutant les extraits que vous avez passés autour de cette table, on a un peu souri tous parce qu'il y a une sorte de jouissance là dans le cinéma de Scorsese tout le temps, la virtuosité, l'électricité, la vitesse, etc. Et de l'associer tout de suite avec New York, ça marche. En fait, il est né vraiment dans un chaudron extrêmement surpeuplé. Et ce qu'on oublie parfois de dire aussi, c'est que c'est le grand-père de Martin Scorsese qui est arrivé à Ellis Island, etc. Et que deux générations plus tard, les Italiens...
De Sicile,
absolument. Absolument, j'ai dit pardon. Et en fait, deux générations plus tard, les Italo-Américains sont toujours là, se marient entre eux, restent dans cette ville new-yorkaise.
Yael Sadat, vous dessinez dans le documentaire le portrait d'un homme qui est partagé entre des identités duelles, parfois contradictoires. Donc on lisait la Sicile de ses grands-parents et le New York de son enfance, le cinéma indépendant et l'astre hollywoodien, oui, qu'il a longtemps fantasmé, dont il a fini par devenir un pilier. Chez lui, finalement, on se dit que la généalogie et la géographie sont au cœur de tout.
Absolument. Bah, vous avez parlé de bulle, effectivement, et c'était un peu justement l'intention. On avait envie d'insister là-dessus. On avait même au départ un peu imaginé une structure sous forme de bulle comme ça, parce que c'est les communautés, la question de la communauté. Et cette question de l'identité chez Martin Scorsese, en fait, on a l'impression de tout savoir là-dessus, de savoir effectivement, comme l'a rappelé Camille, les origines siciliennes, etc. Mais en réalité, on le sait tellement qu'on n'y pense plus. On oublie ces racines-là. Nous, on avait envie de revenir à la racine des racines, si j'ose dire.
C'était ça l'envie de faire ce documentaire.
Absolument.
Sous cet angle, hein, comme on dit en jargon journalistique.
Oui, bah oui, c'est ça. C'est ça.
Et donc, alors on parlait de généalogie, hein, plus anecdotiquement, sa mère joue souvent, en tout cas au début de Scorsese, sa mère joue souvent des petits rôles dans ses films. On voit dans votre documentaire aussi qu'elle fait un peu cantinière aussi. Par moment, avec ses soirées.
C'est pas n'importe quoi ce qu'il a accompli quand même, Scorsese. C'est-à-dire qu'il le raconte, il va à l'université, à peut-être quelques blocs de chez lui, mais c'est un voyage de sortir de ce quartier-là. Et donc, c'est aussi quand même un enfant chétif qui a été hyper couvé par sa mère, l'envoyer faire des études, et en plus des études de cinéma. Enfin, voilà, dans l'ascension sociale un peu traditionnelle, on finit par, je sais pas, on fait d'abord du commerce, on est ingénieur. Là, faire du cinéma, c'est extraordinaire. Et les parents de Scorsese, ils l'ont énormément accompagné. Ils l'ont financé, évidemment, mais voilà. Donc, quand il fait ses premiers courts-métrages et qu'il faut faire la cuisine à 5 heures du matin ou qu'il y a besoin d'un plat de pâtes sur le plateau, évidemment, c'est la mère de Martin Scorsese qui le fait. Et toute sa vie, en fait, elle va faire la cuisine, même dans Les Affranchis.
Les Affranchis, c'est-à-dire dans les années 90, plus du tout au début.
Elle est à l'écran, elle incarne la mère d'un des gangsters, et puis elle fait vraiment la cuisine, parce que c'est aussi important pour Scorsese de montrer que ce soit vraisemblable et vrai, et que voilà, comment on mange dans ces endroits-là.
Elle prête son couteau aussi.
Elle prête son couteau, qui va servir à autre chose que découper des tomates.
Eh bien, on aura peut-être l'occasion de le découvrir tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on peut revenir brièvement sur les origines, l'enfance de Scorsese ? Donc, rapidement, il naît en 1942, dont sa famille est modeste, donc chez ses parents, pas de livres, pas de théâtre. Et en fait, c'est je le dis un peu grossièrement, hein, mais ces deux vitrines sur le monde, c'est la télé et le cinéma.
Oui, bah c'était incontournable de faire ce rappel-là, c'est-à-dire la cinéphilie viscérale de Scorsese, qui en fait, enfant, hésite entre plusieurs idoles, il est pris entre plusieurs feux. Bon, la religion, effectivement, la figure christique, puisque la première salle dans laquelle il entre, c'est quand même l'église. Je veux dire, c'est aussi important. La première salle de spectacle, c'est dans laquelle il est spectateur, c'est l'église. Mais il y a aussi l'autre idole qui est le cinéma. Il est entouré d'une famille qui consomme beaucoup de cinéma italien. Déjà à l'époque, dès que les classes populaires, les classes moyennes ont la télévision, il y a déjà des films en italien qui accompagnent leur journée. C'est très important pour ses parents, c'est très important pour lui. Il voit un culte à Fellini, à Rossellini, à Visconti, et il va y avoir une trace du néoréalisme dans son cinéma. Et néanmoins, je le disais, il va refuser d'être ce qu'on appelle un cinéaste strictement naturaliste ou réaliste. Et il aura toujours à la fois ce cinéma italien-là et John Ford à l'horizon. Et ça, c'était important de rappeler cette dualité qui est au départ une dualité de cinéphile.
Alors, cette dualité et du catholicisme de Scorsese et dans son œuvre, cette présence dans son œuvre, on en reparlera. Mais avant, on écoute Bad de Michael Jackson, 1987. C'est le choix de notre réalisatrice, Apolline Verlon, et c'est l'un des nombreux clips réalisés par Martin Scorsese. We'll be right back. Vous êtes bien sur RFI dans tous les cinémas du monde, émission spéciale consacrée à Martin Scorsese avec Camille Jusa et Yael Sadat. Alors on parlait tout à l'heure de l'enfance de Scorsese et de son adolescence. Il dira plus tard, j'ai été sauvé par l'asthme. Sinon, laisse-t-il entendre, il aurait fini comme les voyous de Mean Streets, même si j'ai un peu de mal à le voir en chef de gang.
Bah oui, c'est un peu l'autre idole, hein. Je parlais d'idole, c'est effectivement le gangstérisme, enfin, c'est aussi un horizon, la mafia, pour lui à cette époque-là.
Il fait partie, Scorsese, de cette génération de cinéastes très cinéphiles, un peu comme Lucas, Spielberg, De Palma. Comment il s'inscrit dans ce groupe ? C'est un peu la côte Est contre la côte Ouest, mais pas que.
C'est vrai que c'est un peu le dernier arrivé à Hollywood. Les autres sont déjà plus installés. Ils essayent de lui faire une place.
Oui.
Et c'est le dernier arrivé.
C'est des amis à lui, en fait.
Ce sont ses amis. Ils ont vraiment une sorte de stratégie, quand même, hein, d'aller séduire les studios. Et ils le font venir une première... Enfin, Corman le fait venir une première fois en 72, c'est ce que tu as raconté. Et puis quand ils vont revenir, il va revenir après Taxi Driver et s'installer vraiment sur la colline de Mulholland Drive, c'est ça, à Mulholland Drive. Il est quand même arrivé un tout petit peu après les autres, puis avec quand même une espèce de méfiance vis-à-vis des studios aussi.
C'était pas celui qui était le plus fait pour s'insérer dans le paysage hollywoodien.
C'est ça qui est étonnant. Ouais.
C'était pas du tout quelqu'un de solaire. C'est une dichotomie qu'on rencontre souvent, l'opposition entre New York et Hollywood, la contre-culture assez hippie, mais avec un certain hédonisme, une certaine luminosité, alors que lui, Scorsese, effectivement asthmatique, plein de névrose,
angoissé
par un tas de choses, à commencer par le fait de prendre l'avion pour... Il y a quand même quelque chose qui détonnait complètement et qui a fait qu'il a trouvé une place d'autant plus singulière, et que parmi ces gens-là, c'est le seul, enfin c'est le... on pourrait dire le vétéran, celui qui a survécu à ces années-là.
Alors, avant de partir à Hollywood, cap sur la jungle new-yorkaise, jungle aussi dangereuse ou presque que celle du Vietnam qui est en ces années 70 et dans toutes les têtes, y compris celle très perturbée de Travis Bickle.
All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. I go all over. I take people to the Bronx, Brooklyn. I take them to Harlem. I don't care. Don't make no difference to me. It does to some. Some won't even take spooks. Don't make no difference to me.
Faune new-yorkaise, personnage à la dérive, confusion du bien et du mal, violence cathartique et questionnement métaphysique. C'est Taxi Driver, réalisé par Martin Scorsese sur un scénario de Paul Schrader. Un film qui, une fois pour toutes, installe définitivement l'univers scorsésien.
Oui, enfin, qui à la fois consolide Scorsese, il a la palme d'or avec Taxi Driver, et donc il entre dans la cour des auteurs internationaux à ce moment-là. C'est une place qui va continuer de devoir négocier, ça va pas être tout de suite joué. Mais néanmoins, c'est vrai que le film à la fois fait resplendir la ville d'où il vient, donc New York évidemment, resplendir d'une façon déroutante, parce que plutôt dans les ténèbres que dans la lumière, mais c'est un film qui déstabilise beaucoup en fait son public, malgré cette palme d'or qui ne garantit pas forcément un succès et une place durable à Hollywood, parce que ça n'a pas forcément la même signification là-bas, un tel prix. C'est un peu un virage à 180 degrés, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui était, je le disais, le porte-parole des minorités, d'une minorité, perçu comme un progressiste, un féministe, puisqu'il a fait également Alice n'est plus ici, avec Ellen Burstyn, qui est une fable comme ça, on pourrait dire aujourd'hui d'empowerment, en quelque sorte. Mais là, avec Taxi Driver, donc Travis Bickle, ce n'est plus un personnage avec un nom à consonance italienne, c'est un chauffeur de taxi puritain, très solitaire et, on pourrait dire, ruminant comme ça, des passions tristes, révolté par la souillure, la crasse, le crime, etc., qui va se transformer en justicier des rues, en justicier solitaire. Le film le montre même comme un raciste. Alors, le porte-parole, le défenseur des exclus qui tout à coup fait un film sans italo-américain et on pourrait dire à la gloire, mais c'est pas du tout, c'est ce que les critiques ont écrit à l'époque, mais qui présente Travis Bickle comme quelqu'un à qui on peut s'identifier, c'est un choc. Ça vient beaucoup de la dramaturgie de Paul Schrader, mais c'est quelque chose, voilà, Scorsese dit lui-même, j'aurais pu l'écrire moi-même, je me suis identifié à ce personnage, et ça dérange beaucoup le public.
Alors c'est un film, Camille Jusa, transgressif, comme on dirait aujourd'hui. C'est aussi un film dans lequel Scorsese invente, entre guillemets, un acteur, Bob De Niro, Robert De Niro, qui a déjà joué avec lui, mais sauf que là, la Palme d'Or va donner au film une résonance mondiale. Et j'ai appris dans votre documentaire que c'est De Palma qui a présenté De Niro à Scorsese.
Oui, en fait, ce qui est beau aussi, là, on racontait de la manière dont ça se groupe.
Donc là aussi, on voit les liens.
Voilà, ils se sont un peu cooptés, et puis pas seulement cooptés à l'intérieur de l'industrie quand ils sont partis à Hollywood, aussi, c'est comme une famille de cinéma, où on s'échange les acteurs, on s'échange les idées. Et oui, c'est assez amusant de savoir qu'il a d'abord joué chez De Palma, et ça, c'est Robert De Niro devient une sorte de double, mais alors, il y a une photo qu'on n'a pas mise dans le film, mais qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il est entouré, Scorsese, sur une photo sur un tournage de De Niro d'un côté et de l'autre côté, c'est Paul Schrader. Il est tout petit, gringalet. Et on voit bien à quel point ces espèces de baraques, en tout cas Robert De Niro, hyper en muscle à l'époque, quand même hyper beau, etc.
Et le Taxi Driver est pour moi le moment où Scorsese refuse d'être l'enfant de Little Italy pour devenir le cinéaste du trouble existentiel.
Et ce qui est assez beau, en effet, c'est ce qu'on comprend dans Taxi Driver, c'est que c'est cet homme qui n'arrive jamais à rejoindre la communauté, Travis Bickle, qui est derrière son pare-brise et qui n'arrive jamais à rencontrer. Et c'est un peu la question de Scorsese.
Et qui se fait rejeter par une jeune femme très belle et très blonde, comme souvent les jeunes femmes, en tout cas au début, dans les films de Scorsese, au début.
Qui sont ces femmes blondes, wasp,
inaccessibles.
Une sorte de vecteur vers la majorité, vers de l'autre côté du pare-brise, de l'autre côté dans la société qui a l'air de tellement bien aller. Et c'est assez troublant de se dire, et moi c'est pour ça que j'ai trouvé ça passionnant de se plonger là-dedans, de se dire que Scorsese, qui est cet homme qui est si volubile, le grand maestro, qui a l'air si à l'aise sur tous les plateaux, c'est un homme qui, à 20 ans, 25 ans, enfin petit, même 30 ans, il souffre énormément de savoir quelle est sa place, comment il va raconter ce qu'il a à dire, comment il va rejoindre cette Amérique majoritaire. Et les blondes, oui, grand vecteur. De...
les blondes chez Scorsese, voilà. Grand sujet. Voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler sans doute en parlant de Goodfellas, Les Affranchis, et peut-être aussi de Casino. Mais qu'est-ce qui, selon vous, fait que ce film est devenu culte au point, on cite toujours la haine et le monologue de Vincent Cassel qui répète celui de Robert De Niro, Are You Talking To Me? Et qu'est-ce qui fait que ce film est devenu culte? Parce qu'on est bien d'accord, c'est un chef-d'œuvre, c'est un film magnifique, c'est un film qui a plein d'entrées différentes, de l'ultra-violence aux questions existentielles, vous le disiez Camille Eyal. Comment expliquez-vous justement ce statut culte de Taxi Driver?
Paul Schrader, donc l'auteur du scénario, a employé l'expression, il a dit « We've hit the bullseye ».
L'œil du taureau.
Ouais, c'est ça. Et donc l'air du temps, on était en plein, on a visé juste dans l'air du temps, dans le zeitgeist comme ça. Et je pense qu'il a raison, mais que en réalité, c'est une sorte de zeitgeist atemporel, c'est-à-dire que des Travis Bickle, c'est-à-dire des personnages qui sont troublés, ces espèces d'hommes esselés, pour reprendre la formule de Schrader, qui sont enfermés dans une pièce portant un masque de façon métaphorique, attendant que quelque chose advienne. C'est la formule qu'il emploie lui-même, Schrader, pour définir son cinéma. Il y a pas mal de personnages de Scorsese, même ceux qui ne sont pas écrits par lui, qui correspondent à cette définition. Je pense qu'en fait, cet archétype d'homme solitaire et tout simplement victime d'une sorte d'identité diffractée, d'un problème d'individualité malade. Hein. C'est la question du cow-boy, puisque dans le film, on présente un peu Taxi Driver comme le moment où Scorsese a envie de faire enfin sa version de La Prisonnière du désert, parce que lui, il aime beaucoup le western, qu'il rêverait d'en faire, mais ce n'est pas son territoire, ce n'est pas son terreau.
Alors La Prisonnière du désert, c'est John Ford qui part sauver une jeune fille, et là, en l'occurrence, c'est Robert De Niro qui part sauver le personnage joué par Jodie
Foster. Exactement. Et donc, c'est effectivement, pour eux, dans leur tête, c'est une variation autour du film de John Ford, et donc une manière déguisée comme ça de faire un western, et de questionner dans toutes ses contradictions, sa noirceur, l'individualisme américain, la figure du justicier solitaire, etc. Et ça, il y en aura d'autres, même pas des justiciers, mais enfin, il y aura les forces de l'ordre, les gangsters. L'homme seul dans une chambre avec un masque, c'est un motif qui est cher à Schrader qu'il l'est à Scorsese et qui est atemporel. Bon, la preuve, c'est que un film comme Joker, qui a eu un immense succès il y a quelques années, en 2019, citait expressément Taxi Driver et aussi La Valse des Pantins, un autre film de Scorsese. Et l'archétype semblait éminemment contemporain.
Alors pour Scorsese, les années 90 sont la décennie des films de gangsters. Il en enchaîne 3 en 5 ans. Casino, Les Nerfs à Vif, et puis avant Les Affranchis, Goodfellas en VO, avec à l'affiche Ray Liotta, Lorraine Bracco, Robert De Niro et Joe Pesci. I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered.
To me, being a gangster was better than being president of the United States. Love is all that ever mattered. Even before I first wandered into the cab stand for an after-school job, I knew I wanted to be a part of them. It was there that I knew that I belonged. And to me, it meant being somebody in a neighborhood that was full of nobodies. They weren't like anybody else. I mean, they did whatever they wanted. They double-parked in front of a hydrant, and nobody ever gave them a ticket. In the summer, when they played cards all night, nobody ever called the cops. Must I forever be a beggar?
Good. These golden dreams will not come true. Hey, Tony Stacks, how are you? Will I go from
rags to Tony Cicero.
This beat a Canassi kid.
My fate is up to you.
Les Affranchis ou l'histoire spectaculaire d'un gangster interprété par Ray Liotta au sein d'une des grandes familles mafieuses de New York, dont 47 millions de dollars de recettes, énorme succès au box-office. Et à sa sortie en 90, Variety écrit « C'est un film fascinant et repoussant tout à la fois ». Et c'est un bon résumé.
Oui. Oui, c'est vrai. Alors moi, je trouve surtout fascinant, mais c'est vrai que c'est un film qui unit quelque part les identités éclatées de Scorsese, tout en faisant non pas un film âpre, un film bitumé comme l'était Mean Streets, mais plutôt un film à l'hollywoodienne, une fresque qui prend pour point d'entrée ce qu'est le rêve américain. Et on en parle beaucoup à ce moment-là, le cinéma d'auteur, disons, est travaillé par la question du matérialisme, puisqu'on sort à peine des années Reagan, et on est le cinéma, c'est une vieille question, le rêve américain, etc. Mais c'est particulièrement à ce moment-là, on interroge, même dans le cinéma dit de genre ou dans les thrillers, cette question-là. Et Scorsese se dit, je vais passer par ce sujet-là, qu'est-ce que c'est que la réussite, l'American Dream, pour raconter le gangstérisme et raconter une communauté qui s'émancipe et qui se dilue comme ça dans l'Amérique capitaliste.
C'est assez, assez choquant comme film, on s'en souvient pas, mais en fait, il y a énormément de sang dans ce film, et c'est pas si c'est la première fois qu'il va faire aussi éclater comme ça autant de sang sur les murs.
Il y a beaucoup
de violence. Et maintenant, on est très habitués, puis Tarantino nous en a mis sur tous les murs, donc voilà, mais c'est quand même un moment très singulier, et c'est vrai que c'est dans la mafia, comme finalement, pour se débarrasser des concurrents, on les tue, c'est pas comme dans la vraie vie du capitalisme, on va se tuer financièrement, mais pas, voilà. Là, il y en a partout, et donc, il pousse jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est que cette fable capitaliste? Eh ben, si on l'applique à un monde où il n'y a pas de loi, eh ben, on finit par s'entretuer. Et les gens sont entretués dans Les Affranchis. C'est hyper gore, en fait. C'est, voilà, ça participe aussi de ça.
Mais justement, on pourrait presque dire, enfin, je vous écoute et je pense au Loup de Wall Street, parce que c'est exactement la même fresque, le même mouvement. Donc, on a toujours ça chez Scorsese, c'est-à-dire le péché et la punition. C'est-à-dire le spectateur jouit du spectacle du péché, en l'occurrence de l'ultra-violence que vous décriviez tout à l'heure, Camille, avant d'assister à la chute. Au fond, c'est très catholique.
Ben absolument, c'est aussi pour ça qu'il y a une manière, je disais, d'unir les différentes facettes. La facette catholique, qui était restée une frustration, puisque le film La dernière tentation du Christ avait fait scandale et n'avait pas été regardé de la façon dont il aurait voulu qu'on le regarde, et c'est considéré par beaucoup de fans de Scorsese comme un gros échec artistique. artistique. Et de fait, c'est un film qui est moins resté dans les mémoires. Mais avec, avec cette question du sang, oui, il a complètement réussi à regarder un endroit où on ne regardait pas, tout simplement. Et ce qui dérange dans les congrégations d'hommes et de mafieux chez Scorsese, et ça se retrouve dans Le Loup de Wall Street, en effet, c'est-à-dire que c'est un film où il y a la question de la complicité masculine, encore une fois, des langages codés, c'est que Scorsese, c'est ce que vous disiez, il filme ces rapports-là, il filme cette convoitise et cet appât ce désir de toujours plus, hein, la fameuse formule de Jordan Belfort, c'est jamais trop, on n'a jamais assez. Et puis ça se traduit dans libido, dans le crime, dans les magouilles, dans tout ce qu'on veut. Scorsese ne s'interdit pas de filmer la jouissance qu'il y a derrière ça. Et il y a un œil, je dirais, qui est l'œil de Dieu, ou l'œil en tout cas d'un curé un peu punisseur, comme ça, en hauteur, surplombant.
Je vous cite, les yeux de Scorsese sont-ils ceux d'un curé punitif ou d'un filmeur, ou d'un voyeur, pardon, complaisant ?
Absolument, oui, c'est on pourrait le dire comme ça, et parfois, il se met à leur hauteur pour mieux jouir avec eux.
Mais je vous écoute et je pense à son frère jumeau, Paul Schrader. C'est-à-dire que chez Scorsese, il y a toujours ce double mouvement entre l'expression d'une inquiétude existentielle et le goût du spectacle. Et c'est peut-être ça qui va faire de lui un champion du box-office, alors que Paul Schrader, qui lui n'a que l'expression de l'inquiétude existentielle, attire certainement moins de spectateurs.
C'est le calviniste, hein, c'est-à-dire que c'est effectivement... mais c'est vrai qu'il y a on a souvent des motifs, on les compare souvent à l'aune de cette différence-là, de leur différence d'obédience, si j'ose dire. Et en fait, par exemple, le sang, la question du sang, qui est une souillure chez les protestants, et donc chez Paul Schrader, et en fin de compte moins présent. Si on prend un de ses films récents, The Card Counter de Paul Schrader, la vengeance et le sang sont carrément hors champ. Alors que Scorsese, c'est tout l'inverse, puisque on représente le sang, il est là. Taxi Driver, c'est un peu les deux, finalement.
Comme le disait Camille tout à l'heure, il repeint les murs tout le temps.
Exactement, et de manière désaturée, parce que pour des raisons de production et de censure, ils avaient désaturé le rouge pour avoir un sang, oui, dans Taxi Driver, pour avoir un sang un peu moins rouge. Et donc, c'est un compromis, quelque part, entre la blancheur de Paul Schrader, la pureté, etc., et puis le rouge du catholique Scorsese.
Voilà. Alors, Martin Scorsese, c'est le cinéaste, on l'a dit, hein, des amitiés viriles. Il y a relativement peu de place pour les femmes dans ses films. Et pourtant, en 93, il porte à l'écran l'un des plus beaux romans d'Edith Wharton, une histoire d'amour interdite dans le New York des années 1870, celui de la comtesse Olenska, Michelle Pfeiffer, et d'un jeune et brillant avocat, Newland Archer, joué par Daniel Day-Lewis.
And we can't stay like this. It can't last.
I think we should look at reality, not dreams.
I just want us to be together.
I can't be your wife, Newland. Is it your idea I should live with you as your mistress?
Somehow I want to get away with you and find a world where words like that don't exist.
Oh, my dear. Where is that country? Have you ever been there? Is there anywhere we can be happy behind the backs of people who trust us?
Beyond caring about that.
No, you're not. You've never been beyond that. I have. I know what it looks like. It's no place for us.
Le temps de l'innocence, Newland Archer, un avocat en vue, annonce ses fiançailles avec la jeune et pure May Willand. Mais il va succomber au charme, à l'intelligence et à la liberté d'esprit d'Hélène Olenska, la cousine de sa fiancée, Olenska, qui est mariée et rentrée dans un exil en Europe. Donc en somme, c'est l'ancien monde contre le nouveau.
Absolument, ouais. Au sein d'une espèce de société secrète aussi. Enfin, il y a ce côté-là, c'est-à-dire c'est filmer un monde régi par des lois, je le disais. Et c'est effectivement un terreau tout à fait différent, un nouvel écrin. Et Scorsese, je pense, c'est un peu un des rares exemples, Le temps de l'innocence, où Scorsese s'épanouit pleinement. Même si c'est un film qui est, encore une fois, qui est peut-être moins resté dans les mémoires, mais ceux qui l'ont vu, et surtout à l'époque, s'en souviennent, où il arrive quand même, malgré tout, à regarder les hommes et les femmes différemment. Peut-être avec un recul qu'il n'avait pas avant. Moi, je pense que c'est surtout ça, si on compare peut-être aux personnages féminins des films des années 70 ou de Raging Bull. Elles sont tragiques, toujours toujours les femmes chez lui. Donc c'est pas du tout un film. Je ne dis pas que les films comme Mean Streets ou Raging Bull ou Taxi Driver sont misogynes, pas du tout.
Mais c'est vrai que les femmes sont toujours tragiques, sacrificielles. On parlait des blondes tout à l'heure.
Oui, mais finalement pas tant que ça, parce qu'elles offrent aussi une manière de elles détournent le regard. En tout cas, elles permettent de regarder ces hommes machos. Elles permettent aussi de critiquer cette bande de machos, de gangsters, etc. Elles sont pas juste, quand on regarde les affranchis, le retournement de la femme de Ray Liotta, elle finit par prendre le dessus, cette femme. C'est aussi, elle tombe dans la cocaïne, etc. Mais elles sont pas complètement. Moi, je me demande si c'est pas juste des potiches qui servent de décor, en fait. Elles permettent de regarder la société des hommes aussi.
Une pause musicale dans tous les cinémas du monde, mais on reste dans l'univers de Scorsese. C'est New York, New York de Liza Minnelli.
Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm a king. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York.
Sur RFI dans tous les cinémas du monde avec Camille Jusa et Yael Sadat pour parler de Scorsese. Alors Scorsese, il est tout de suite considéré comme un grand cinéaste, mais à quel moment il devient, enfin en tout cas aux États-Unis, une sorte de trésor vivant, une figure de super auteur avec des budgets de plus en plus énormes, hein, jusqu'à son film Netflix The Irishman.
Eh ben, c'est certain que sans le virage qui est, enfin on va dire la remontée qui est Les Affranchis, qui est marquée par Les Affranchis en 90. ça ne serait peut-être pas arrivé. Je pense que si cette formule, on pouvait dire ça un peu comme ça tout à l'heure, ce moyen de concilier les différents centres d'intérêt, les différents sujets de Scorsese dans une forme plutôt populaire, comme ça, très ample, qui est, on va dire, la fresque à l'hollywoodienne, sans ce moment-là, peut-être que Scorsese aujourd'hui serait regardé comme l'homme de deux ou trois films, qui n'aurait pas vraiment survécu au nouvel Hollywood et à l'ébullition des années 70. Puisque Raging Bull, par exemple, est un film qui profite surtout à son acteur, donc De Niro qui décroche l'Oscar, à sa monteuse qui décroche aussi un Oscar. Mais lui passe à côté des Oscars très longtemps, jusqu'aux Infiltrés, en 2006. Et c'est quand même quelqu'un qui est un peu flou. C'est-à-dire qu'il a un pied dans l'auteurisme ou, disons, une sorte de radicalité, et en même temps qui est attiré par le grand cinéma, et notamment, on a entendu New York, New York, et New York, New York, c'est quand même le film de quelqu'un qui est attiré par une forme aussi très populaire qu'est la comédie musicale, à l'ancienne, celle des années 50 ou même d'avant, et qui a envie d'en faire sa propre version. Mais quand il s'empare de ces choses-là, ça ne marche pas forcément parce qu'il est beaucoup trop tordu, j'allais dire, dans sa façon de relire les genres. De fait, cette comédie musicale sans happy end déplaît au public, et c'est un échec cuisant pour lui. En 78, il se retrouve comme ça presque mis à l'amende et puni pour avoir voulu faire relire Hollywood à sa sauce, quoi.
Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression que Scorsese, donc c'est le dernier grand auteur d'Hollywood, le survivant, le grand maître, etc. Et ce qui est intéressant quand on reparcourt toute cette histoire, toute cette filmo, c'est que à partir de 90 et du succès des Affranchis, ce succès nous a fait oublier que c'est quelqu'un qui se cherche très longtemps, vraiment, entre New York et Hollywood, entre le cinéma d'auteur et le cinéma commercial, enfin, en tout cas, une formule commerciale qui pourrait fonctionner. Et c'est quelqu'un qui a été très anxieux, qui a été hospitalisé à la fin des années 70, a mis en place une stratégie tout au long des années 80 d'essayer de... Il pense absolument tout le temps qu'il est en train de faire son dernier film, Scorsese, hein, c'est pas rien, en fait. Et il a cette stratégie de dire, maintenant, je fais un film pour l'industrie, un film pour eux, un film pour moi. Donc cette image qu'on a aujourd'hui de cette virtuosité, de cette aisance, etc., elle fait un peu oublier que c'est un parcours très long et qu'il n'est pas devenu le grand maître du jour au lendemain.
Et ça nous intéressait aussi de montrer ça, c'est-à-dire derrière cette idée qu'on a un peu en bloc, comme ça, un bloc de virtuosité, un bloc de maîtrise, il y a ces archives qu'on aime beaucoup où il dit, mais parfois je ne sais même pas où mettre la caméra. Et c'est une angoisse et encore une fois existentielle chez lui, c'est quel cinéaste suis-je, qu'est-ce que c'est que mettre en scène. Et sur la question de ça, précisément de sa cinéphilie et de son apprentissage du cinéma, il se demande concrètement pendant très longtemps, même s'il ne le formule pas comme ça, c'est un peu nous qui le lisons de cette manière, mais il se demande, suis-je le fils de John Ford ou le fils de Rossellini? Suis-je italien ou américain? Suis-je le disciple et l'élève de Roger Corman, donc le producteur de série B, ou bien de John Cassavetes, qui a été aussi un mentor et qui incarne le contraire de Roger Corman, qui incarne le cinéma sans concession, indépendant, l'indépendance totale. Voilà, Scorsese, en fait, a mis beaucoup de temps à résoudre ces questions, et je pense d'ailleurs qu'il les a peut-être même pas complètement résolues.
Scorsese, c'est l'homme qui a touché à tous les genres. Il a fait des films noirs, des thrillers. Il a abordé le fantastique, voire l'horreur avec Shutter Island, la comédie grinçante avec After Hours et King of Comedy. Qu'est-ce qui lui manque à 80 ans passés? Un western.
The Osage. They have the worst land possible. But they outsmarted everybody.
The land had oil on it. Black gold. Money flows freely here now.
I do love that money, sir.
This wealth should come to us. Their time is over.
It's just going to be another tragedy.
Il faut que l'argent coule du bon côté. Killers of the Flower Moon, présenté au Festival de Cannes en mai dernier. Adaptation d'un roman de David Gran et fresque remarquable sur une série de meurtres commis dans les années 20 au sein d'une tribu indienne, les Osage, enrichis grâce au pétrole. Scorsese s'attaque à l'histoire des États-Unis, mais cette fois-ci, Camille Jusa sur son versant le plus monstrueux.
Oui, et vous disiez qu'il lui manquait un western, et on peut quand même se demander si c'est tout à fait un western. Ouais. En tout cas, il vient encore chercher du côté de ce qu'il y a de plus noir, et de cette cupidité qui vient pourrir jusqu'à l'intérieur des couples, l'intérieur des familles, avec ses mariages odieux et ses empoisonnements horribles. Mais c'est intéressant, je trouve, de le voir se déplacer à la campagne, enfin, parce que on a parcouru
dans la prairie,
la magnifique prairie comme ça. Et ça, c'est très beau parce que c'est vrai qu'en 72, il avait essayé avec ce premier film à Hollywood et c'était absolument une catastrophe. Il n'arrivait pas à mettre en scène les scènes de bagarre, etc.
Ça, bon, c'était Berta Bokska.
Voilà, et puis il a réussi à très très bien filmer les scènes de bagarre toute sa vie. Et là, il plante sa tente dans la prairie. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit tout à fait un western.
Non, c'est-à-dire à chaque fois, c'est des films...
Ce qui est curieux, c'est le contraste entre le côté un peu pyrotechnique du film et son sujet qui est vraiment l'intime, qui est vraiment la chambre glacée. On peut rappeler l'histoire brièvement. C'est donc cette femme indienne qui est jouée par l'actrice Lily Gladstone, qui épouse Ernest, qui est joué par Leonardo DiCaprio, donc l'homme de main de Robert De Niro, qui est un grand propriétaire terrien. Et tout le programme, c'est de tuer effectivement cette femme qui est une riche héritière.
Oui, et de tuer toutes les femmes, enfin tous les membres de la communauté qui gênent en fait les plans pour s'approprier effectivement l'or noir, quoi, le pétrole, et enfin les droits sur ces terres. Mais c'est vrai que c'est pas complètement un western, c'est plus un film noir. C'est typiquement un argument de film noir, même si c'est un fait historique. L'enquête de David Gran, elle est entièrement constitué de faits avérés. C'est comme Berta Bokska, qui était un film de gangster plutôt déjà, mais sous la prohibition. Donc on avait un décor de western, mais des problématiques liées à la question du gang, du clan. Et là, encore une fois, c'est le clan des hommes. Et je pense qu'il fait toute la différence, en fait, avec un western ordinaire ou un western pur sucre, si j'ose dire, c'est que dans un western, dans le vieil ouest, les manigans, il n'y en a pas, c'est pas des manigances qu'on voit, le crime se fait au grand jour puisque la police...
C'est premier degré.
Oui, la police est pour le moins absente en fait, on est dans un monde sauvage, le wilderness où on peut, c'est comme vivons heureux, vivons cachés, on peut vivre caché de la côte est et caché des institutions et on peut commettre le pire au grand jour, les duels ont lieu au soleil, les pendaisons sur la place publique, etc. etc. Et lui, Scorsese, c'est l'homme quand même des mondes souterrains. On dit la mafia en anglais, c'est l'underworld. Et il est plus à l'aise avec ça, et c'est ça qui est assez intéressant avec Killers of the Flower Moon, c'est qu'il transforme ce territoire western et l'espèce de chaîne du mal, parce que c'est vraiment le mal, c'est le mal incarné par ce William Hale, donc ce propriétaire terrien qui cherche à éliminer cette femme amérindienne. Il le filme en fait comme sous forme de manigance, les choses sont hors champ, la violence surgit comme ça sous forme de petites zébrures comme ça sur l'image, mais on en voit presque le moins possible.
Et le film adopte le point de vue d'une femme, ce qui là aussi est très important. Alors soit on pourrait dire le point de vue d'une femme ou le point de vue d'un idiot. C'est-à-dire ce fameux Ernest, joué par Leonardo DiCaprio, qui l'épouse pour lui voler sa fortune.
Oui, et c'est comme si ce regard-là, le point de vue de Molly, c'est son nom, le prenait sur le fait, finalement, ces hommes. C'est-à-dire, quand je disais qu'elle essaye de les mettre face à leur bassesse et face à toutes leurs fautes, pas pour les absoudre, mais vraiment pour qu'ils en répondent et qu'ils arrivent à dire, c'est ça aussi qui est très beau dans ce film, parce que Scorsese n'est peut-être pas, on n'y pense pas comme un grand cinéaste des relations de couple et de l'amour et de la romance, mais n'empêche que là, il y a quand même une façon de dire, Est-ce que dans tout ça, cet idiot aime réellement sa femme et il n'arrive pas à cracher le morceau? C'est ça qui est désespérant et très beau à la fois.
C'est l'histoire racontée par un idiot, c'est très shakespearien en fait.
C'est vrai, un conte qui n'a pas de sens.
Sur la tombe de cette femme, qui est morte vieille finalement, il n'est jamais évoqué ce drame qui a traversé sa vie. En revanche, le film...
C'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie, que personne n'a mis ça sur les tombes de tous ces Indiens, ce crime. Mais en revanche, le film se termine par une scène qui est donc une dramatique radio qui raconte cette histoire. Et Scorsese apparaît comme le narrateur de cette dramatique radio. Et c'est très beau parce que voilà, c'est aussi qu'est-ce que peut le cinéma, je ne sais pas, presque 100 ans après. Et ça, c'est assez beau de le voir arriver, lui, comme narrateur d'une dramatique radio pour dire, en tout cas, nous, on peut raconter cette histoire-là. Je trouve ça très émouvant.
C'est la fin de cette émission, mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question à 100 000 dollars, Yael Sadat et Camille Jusa. Est-ce que c'est son dernier film, Killers of the Flower Moon?
Visiblement non, puisqu'il se murmure que le livre de David Gran, le dernier livre de David Gran, donc du même auteur que Killers of the Flower Moon, a été optionné par Scorsese.
Et ça parle de quoi?
Les naufragés du Wager, donc c'est sur le naufrage d'un bateau au XVIIIe siècle ou XVIIe d'ailleurs, qui a suite à une mutinerie, enfin qui a occasionné une mutinerie sur l'île des naufragés. Donc tout un chapitre, encore toute une histoire d'hommes qui se bagarrent, encore une fois.
Merci à vous deux, Camille Jusa et Yael Sadat.
Merci beaucoup.
On peut voir votre documentaire Martin Scorsese, l'Italo-Américain, sur Arte à partir du 11 février. À l'occasion de la soirée spéciale Scorsese. Voilà, il est diffusé en prime time, suivi de la diffusion du Loup de Wall Street. On se quitte sur I Can't Get Started de Bunny Berrigan, la musique du premier court-métrage de Scorsese, de Big Shave. Un jazz langoureux sur des images qui le sont un peu moins. Les curieux peuvent le découvrir en accès libre sur Internet. Je leur en laisse la surprise. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré. À la réalisation, Lorraine Nemoza et Apolline Verlon. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de RFI ou sur Pure Radio. Dans quelques minutes après le journal, c'est Mondial Sport avec vous, Hugo Moissonnier.
L'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI. Chaque week-end, des invités, du reportage, le point sur l'actualité sportive, le programme habituel, coup d'envoi, 16h10, temps universel.
Et nous, on vous dit à samedi prochain. Et d'ici là, bonne semaine à tous. Thank you.